Alors la nouvelle année, ben, on le disait, c'est le moment des résolutions, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a du mal à identifier ce qu'on veut véritablement et qu'on a aussi du mal à l'exprimer aux autres également. Alors Marion Malocena-Drosson, vous êtes facilitatrice relationnelle, bonjour à vous.
Bonjour Ilan.
Et vous êtes avec nous jusqu'à 9h30.
La vie en bleu, Ilan Malka.
On va commencer par rappeler ce qu'est une facilitatrice relationnelle. Votre mission, en fait, c'est d'aider les gens à communiquer entre eux, avoir confiance en eux-mêmes et dans les autres. On peut dire que vous êtes quelque part entre le coach et le psy ?
Oui, alors j'ai pas les compétences du psy, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus forcément à chaque fois besoin d'aller creuser des traumatismes. Ça peut être utile et nécessaire. Et à ce moment-là, moi, j'oriente mes clients. Du coup, moi, j'ai des clients, j'ai pas des patients, vers des gens qui ont les compétences pour ça. Mais en tout cas, je suis vraiment dans l'accompagnement des relations des personnes, c'est-à-dire vivre les relations de manière la plus consciente possible, la moins réactive possible. Et j'accompagne autant des personnes individuelles que des couples, des familles, et essayer d'aller comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux derrière les tensions, les conflits, les non-dits, etc.
Alors, identifier justement ses désirs, ses besoins, ses souhaits, c'est important déjà pour soi et c'est important aussi dans le rapport aux autres.
Oui, c'est fondamental en fait, parce que c'est tous nos désirs non identifiés et non remplis, non comblés, honorés, qui font qu'on a des réactions disproportionnées dans nos relations. Par exemple, quelqu'un va nous dire quelque chose qui va nous mettre très fort en colère ou de manière triste, mais disproportionnée, ça veut dire que quelque chose en nous est heurté. Et c'est important d'aller le voir, parce que ça veut dire à ce moment-là, je prends ma part de la responsabilité dans la relation.
Mmh. C'est-à-dire quand on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on ne sait pas l'exprimer aux autres, ça peut être vraiment destructeur dans le rapport avec l'autre, parce que là, ça peut créer de la colère, mais ça peut même sur le long terme créer des vrais problèmes relationnels.
Mais complètement, ça crée de la frustration, ça crée des critiques, ça crée du jugement. C'est-à-dire que je suis dans l'attente très souvent que l'autre réponde à mes propres besoins, sauf que souvent, je ne sais même pas moi quels sont vraiment mes besoins.
Et dans votre métier de facilitatrice relationnelle, c'est quelque chose que vous constatez beaucoup, c'est-à-dire de nombreuses personnes ne savent pas ce qu'elles veulent, ou on est nombreux à ne pas savoir vraiment ce qu'on veut.
Mais bien sûr, mais on est très nombreux à ça parce qu'on n'a pas été habitué à ça. On n'a pas été habitué à aller voir qu'est-ce qui fait que... En fait, arriver à savoir ce qui est blessé chez moi et quels sont mes besoins, ça a juste pour but d'arriver à me pacifier, à me connaître mieux, à me pacifier, et donc à pacifier mes relations avec les autres.
Et il y a des méthodes pour ça, pour savoir ce qu'on veut ?
Bien sûr. Il y a des méthodes, bien sûr. Alors moi, j'emploie une méthode qui s'appelle la méthode Imago, qui est une méthode sous forme de dialogue, en fait. C'est avec ce que j'appelle des amorces de phrases. Donc, par exemple, je vais dire à la personne, dans cette situation, ce que je ressens, c'est... Et la personne va poursuivre avec ses propres mots à elle. Et c'est vraiment un dialogue qui permet d'être profondément écouté et d'aller vraiment à la rencontre de soi, de son univers et à la rencontre aussi de l'autre.
Et vous avez des exemples de types de situations justement que vous prenez pour qu'on puisse vraiment imaginer de quoi il s'agit. Quel type de situation est-ce que vous allez prendre ?
Bon, alors, il y a beaucoup de types de situations, mais par exemple, là, je pense à deux sœurs à la retraite qui sont venues me voir, qui avaient décidé chacune de prendre un appartement dans une maison commune, et c'était pas si simple, parce qu'elles avaient vécu seules aussi toute leur vie, et c'était pas si simple, et on est allé voir qu'est-ce qui se passait derrière les tensions qui pouvaient commencer à se mettre en place, et justement, aller voir pour chacune quel est le besoin derrière qui n'est pas honoré. Et c'était intéressant parce que pour l'une, ça a été par exemple toute la notion d'intimité. C'est-à-dire, elle disait à sa sœur, mais oui, mais toi, tu frappes à la porte, mais tu rentres sans que je te dise d'entrer. Et moi, j'ai besoin de me sentir respectée dans mon intimité. Et l'autre disait, mais oui, mais moi, je viens ici aussi pour qu'on ait des moments de qualité, de partage toutes les deux. Donc, voilà. Et chacune est allée identifier son propre besoin, n'est pas restée dans simplement quelque chose de réactif par rapport à sa sœur. Et puis, elles ont trouvé, parce que moi, j'accompagne les gens pour qu'ils trouvent leur propre réponse. Moi, j'ai pas de réponse. Et elles ont trouvé des réponses, donc... Bon, alors, là, il y en a une qui a dit, mais moi, je veux que quand tu tapes à la porte, si je dis pas entrer, tu n'entres pas, parce que je peux être en train de faire du yoga, faire quelque chose, et c'est pas le moment. Et puis, elles ont quand même trouvé aussi, une fois par semaine, elles vont marcher toutes les deux ensemble, et puis elles partagent le repas en revenant. Et ça permet à l'autre d'avoir ce fameux moment de qualité dont elle avait besoin.
Parce que c'est ça aussi qui peut créer des problèmes, c'est quand on attribue ses propres besoins à l'autre aussi.
Oui.
Croire que l'autre a les mêmes envies que nous... Inconsciemment, quoi.
Exactement. Mais ça, c'est tout le temps comme ça. On a tout le temps l'impression que ce qu'on pense, forcément, l'autre le pense. Or, on est tous très différents.
Vous restez bien sûr avec nous, Marion Malocena-Drosson. Et aujourd'hui, voilà, on parle de ce sujet, comment identifier sa volonté, son envie, son besoin et comment aussi la communiquer aux autres.
La vie en bleu, Ilan Malka.
Comment savoir ce que l'on veut vraiment? Quel est son désir profond? C'est notre sujet du jour dans La Vie en Bleu et nous en parlons avec Marion Malocena-Drosson qui est facilitatrice relationnelle. Alors Marion, on sait que, voilà, que le début de l'année, c'est la période des résolutions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des résolutions? C'est une bonne chose à faire de dresser une liste de choses qu'on a envie de faire pendant l'année?
Pourquoi pas? Le plus important, ce serait surtout de pouvoir les tenir.
Oui.
Et pour arriver à... On en revient toujours pareil. Par exemple, quelqu'un qui va se dire, tiens, cette année, j'arrête de fumer. Qu'est-ce que je cherche derrière ça? Est-ce que je veux prendre mieux, plus soin de ma santé? Est-ce que ce qui m'embête, c'est d'être dépendant de quelque chose et je veux couper cette dépendance? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais mettre du sens derrière les choses... ça va me permettre de mieux en avoir conscience et de mieux les tenir potentiellement derrière. Et sachant que quand on prend des résolutions, l'idée, ce n'est pas de prendre une résolution énorme parce qu'on ne la tiendra pas. C'est toujours c'est ce qu'on appelle des choses qui sont des petits pas, en fait. C'est vraiment l'idée d'un petit pas qui, lui, va se... Je vais le réussir, donc je vais prendre confiance en moi et ça me permettra d'en poser un autre derrière. Si on se met la barre trop haut tout de suite, on risque de ne pas le tenir. Et vraiment aller voir qu'est-ce que je recherche en fait derrière cette résolution.
Alors par exemple, Noémie tout à l'heure parlait de faire plus de sport. Moi, ouais. Par exemple, une de mes résolutions serait de réussir à faire un régime. Mais alors, quelles sont les questions qu'il faut se poser par rapport à ça? C'est, voilà, quel est le sens derrière ça?
Mais... ouais. Pourquoi est-ce que je veux faire un régime? Qu'est-ce que je recherche derrière? Est-ce que je recherche de moi me plaire plus physiquement? Est-ce que je recherche d'avoir une meilleure santé? Est-ce que c'est pour le regard des autres? Est-ce que voilà, c'est aller vraiment mettre le sens derrière? C'est ce qui vous permettra de tenir.
Une fois qu'on a compris ce qu'on veut, comment est-ce qu'on fait pour l'exprimer aux autres? Parce qu'on a vu que c'était aussi quelque chose d'essentiel.
Oui, ça c'est essentiel. Et comme vous dites, la première chose, c'est d'arriver à identifier son besoin. Je pense à un couple notamment que j'accompagnais où elle était très dans le reproche par rapport à son mari qui n'était pas assez présent à la maison et qui lui disait tout le temps « mais t'as vu à quelle heure tu rentres, t'es jamais là ». Et quand vous parlez comme ça à la personne en face, elle n'a pas 36 solutions. Elle va se justifier ou elle va monter le ton aussi. Et on en arrive dans des choses où il n'y a pas de communication. Donc l'important, c'est d'arriver à dire, voilà, de quoi j'ai besoin? Moi, j'ai besoin que tu sois là parce que j'ai besoin de partager des moments avec toi de qualité. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir lui exprimer les choses autrement. Vous allez pouvoir, elle a pu comprendre et dire à son mari, ce dont j'ai besoin, c'est que tu sois plus présent, passer plus de temps avec moi. Et là, vous faites une demande en partant de vous. Donc ça, potentiellement, l'autre, il n'est pas dans quelque chose où il se justifie, mais quelque chose où il peut venir répondre à votre demande et puis dire bah, « si ce n'est pas possible que moi je rentre plus tôt le soir parce que, je ne sais pas, le travail fait que c'est comme ça, par contre, je peux t'accorder du temps à un autre moment. » Parce que ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est qu'il y a plusieurs manières de répondre à un même besoin. Si mon besoin, c'est de passer un temps de qualité avec mon mari et qu'il ne peut pas y répondre le soir comme ça, on peut trouver d'autres moyens d'honorer ce besoin-là.
Oui, le week-end ou à d'autres moments.
Absolument, absolument. Mmh. Ouais.
C'est un long travail, on imagine, pour certaines personnes, justement, de réussir à identifier ce qu'elles veulent. C'est vous, en tant que facilitatrice relationnelle, vous constatez que c'est un travail qui peut prendre combien de temps, parfois?
Eh bien, ce n'est pas forcément si long que ça. C'est un travail nouveau pour les personnes, parce qu'on n'est pas habitué à ça, comme on disait tout à l'heure. Mais ça peut être très rapide.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas habitué à ça, finalement?
Parce qu'on n'est pas éduqué comme ça. Je pense qu'on n'est pas éduqué ni à la maison, ni à l'école. Enfin, moi, je milite pour qu'on nous apprenne à être en relation, même dans les écoles. Quand j'accompagne les gens, il y a des clés qui sont toutes simples, mais qui permettent d'être dans des relations pacifiées, dans des relations fructueuses, des relations conscientes. Et ça, on ne nous l'apprend pas.
Donc, et ça peut être rapide, donc.
Mais oui, ça peut être très rapide. Oui, moi, quand j'accompagne des personnes, c'est sur des temps très brefs.
C'est-à-dire combien de temps?
Alors après, ça dépend des situations, mais ça peut être en 4-5 facilitations déjà, mais même voire parfois moins, on dénoue des problèmes, des tensions. Et puis il y a aussi après tout, je fais aussi des accompagnements individuels. Si j'ai une décision à prendre par rapport à un changement de travail ou quelque chose comme ça, je peux accompagner aussi les gens à ce niveau-là. Et quel est le besoin, encore une fois, là, que je nourris derrière ce changement de travail? Est-ce que c'est un besoin financier? Est-ce que c'est un besoin de me réaliser? Est-ce que c'est un besoin... Enfin, moi, je suis vraiment là pour permettre aux gens d'arriver à y voir plus clair, leur donner des clés et pour qu'après, ils n'aient plus besoin de moi pour aller voir à l'intérieur.
La facilitation relationnelle, en fait, ça concerne aussi la relation à soi-même, pas uniquement la relation aux autres.
Ben oui, parce que la première des relations, c'est celle à soi. Et comme je vous disais tout à l'heure, plus la relation à soi est consciente et pacifiée, plus la relation à l'autre le sera aussi. Bien sûr.
Est-ce que ça arrive de croiser des gens qui se trompent, qui se rendent compte, en fait, qui se trompent complètement sur ce qu'ils veulent? Parce que c'est quelque chose qui peut arriver aussi. On peut soi-même ne pas avoir conscience du tout de ce qu'on veut et se tromper sur ce qu'on veut, vraiment. Non.
Si. Je pense, moi, je suis plus habituée à voir des gens qui ne savent pas vraiment identifier ce qu'ils veulent vraiment que de se tromper.
Ouais.
Mais c'est souvent, on est dans l'ordre de la réaction et pas tellement dans l'ordre de savoir vraiment qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Mmh. C'est surtout ça.
9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Périgord.
Et notre sujet du jour dans la vie en bleu, c'est celui-là. Comment identifier son vrai besoin, sa vraie envie? Et nous en parlons avec vous, Marion Malocena-Drosson, facilitatrice relationnelle. Alors, bon, savoir identifier son envie, c'est aussi une question qui se pose très tôt dans la vie, qui se pose d'ailleurs beaucoup aux jeunes, qui doivent choisir très tôt leur orientation. Vous en recevez beaucoup, des jeunes?
J'en reçois, ça m'arrive, oui, d'accompagner. Alors, c'est compliqué pour les jeunes de trouver... Après, jeunes, ça dépend des âges. En fait, je suis en train de réfléchir en vous répondant. J'ai parfois des très très jeunes, donc oui. C'est pas encore une question d'orientation. C'est plus une question de comment me situer, être bien dans l'école ou des choses comme ça.
Des très jeunes, c'est-à-dire à partir de quel âge?
Là, je pense à une petite qui a 9 ans, par exemple, et qui, voilà, qui était, c'est une petite un peu surdouée, je pense, et qui du coup a du mal à se situer et qui a du mal à trouver sa place aussi par rapport à sa famille, puis par rapport aux camarades, etc. Donc il y a des accompagnements à ce niveau-là. Après, quand c'est plus âgé, c'est pour arriver à savoir qu'est-ce que je voudrais faire dans ma vie, et ça, c'est vraiment compliqué pour eux. Donc moi, je sais que quand je pars pas tellement sur des questions de métier tout de suite, mais sur des questions plus de fond. Voir avec le jeune, qu'est-ce qui lui plaît dans la vie? Est-ce que plutôt, potentiellement, il a envie de travailler dans un bureau plus tard ou plutôt à l'extérieur? Est-ce qu'il préférerait être seul ou être avec d'autres personnes? Quels sont ses moteurs? Qu'est-ce qu'il aime faire? Et après, on vient greffer un métier petit à petit autour de ça.
Parfois, quand on est jeune, son envie, son désir peut être parfois en décalage avec celui des parents, ou même très choquant. Je pense à ce film-là, Le Cercle des Poètes Disparus, où il y a ce garçon qui veut devenir comédien et dans sa famille, on veut qu'il devienne médecin.
Ouais.
C'est le genre de cas que vous pouvez avoir des fois?
Alors, dans ces cas-là, j'ai pas eu. Mais si j'avais quelque chose comme ça, je prendrais les parents aussi pour savoir qu'est-ce qui est important dans le fait que mon fils soit médecin.
Oui.
Pourquoi pour moi c'est important?
C'est-à-dire que les parents, eux aussi, réfléchissent à leur
mais
désir.
Mais voilà, c'est toujours pareil. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Est-ce que moi, j'ai pas pu faire ce métier-là? Mais qu'est-ce qui se joue derrière? Toujours, l'idée, c'est de mettre le maximum de clarté sur ce qui fait qu'on attend quelque chose.
Comment ça se passe un travail justement avec vous, quelqu'un justement qui a envie de savoir un peu mieux ce qu'il veut dans la vie et qui vient vous consulter? Le travail va se passer comment très concrètement?
Alors très concrètement, quand c'est une personne en individuel, on est face à face comme ça dans mon cabinet, et c'est ce que je vous ai tout à l'heure, c'est vraiment la méthode Imago que j'emploie, c'est sous forme d'un dialogue. Donc moi, je vais lui proposer des amorces de phrases, et l'idée, c'est vraiment de petit à petit lâcher au maximum le cerveau et la pensée pour aller vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc on prend le temps, on est vraiment dans l'ordre d'une écoute profonde. La personne va répondre aux amorces de phrases avec ses propres phrases, par exemple ce dont j'ai envie c'est, donc la personne va me dire, en lâchant au maximum vraiment la pensée.
Il faut que ça soit instinctif, des réponses très instinctives.
Oui. Alors, ça peut être réfléchi, mais plus c'est réfléchi, plus en général c'est coupé de soi. Et moi, je fais ce qu'on appelle un miroir. Donc, j'entends que pour vous, ce qui est important, c'est... Et je reprends exactement les mots de la personne. Et ça, c'est très puissant. Parce que ça permet d'une part, moi, que je sois certaine de bien avoir compris la personne. Et elle se sent complètement comprise et entendue. Et parfois, c'est lorsque je fais le miroir qu'elle prend conscience de ce qu'elle a dit. Parce que parfois, on s'en rend compte en disant les choses. Mais c'est souvent quand on a le miroir comme ça, on se dit, ah, mais c'est vrai, ça, c'est effectivement le mot que j'ai employé. Et ça permet soit de corriger, soit d'aller plus loin. Et ça permet vraiment d'aller voir profondément à l'intérieur de soi, d'être curieux de soi-même.
Vous avez des exemples là, qui vous viennent ou pas?
En fait, c'est très spécifique.
C'est à chaque fois, quoi,
à chaque fois, ouais. Oui, mais c'est très fort parce qu'au cours d'une facilitation, vraiment, je crois quasiment à chaque fois, la personne prend conscience de choses qui la bouleversent, dont elle n'avait pas conscience avant.
Mm-hmm.
Et un accompagnement, ça peut être, comme on disait, sur 4, 5, 6 facilitations, ce n'est pas forcément très long, mais petit à petit, on prend la méthode après pour soi et on arrive à aller voir tout seul qu'est-ce qui se passe. Joue derrière, quoi.
Et dans le travail, de dialogue avec l'autre, là aussi, vous recevez les gens à plusieurs, imagine. Et là encore, comment ça se passe concrètement? Vous les faites dialoguer ensemble?
Oui. Quand ce sont des couples, moi, je suis vraiment... je facilite le dialogue entre eux. Donc, il y en a un qui va être l'émetteur et l'autre le récepteur à chaque fois. Après, on change. Hein, donc, chacun aura chaque rôle. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une joute verbale. Quand il y en a un qui s'exprime, l'autre est curieux de ce qui se passe dans son monde. Et il n'est pas dans « qu'est-ce que je pense de ce qu'il dit ?» On est vraiment complètement dans ce qui se passe pour l'autre. Et après on change. Donc moi, là, ça, je facilite le dialogue dans ces moments-là. Et après, quand on intervient en famille, c'est encore d'autres processus parce qu'il y a plus de monde. Mais les amorces de phrases, les miroirs, c'est vraiment la base de la méthode Imago et ça reste à chaque accompagnement.
C'est une méthode qui existe depuis quand, cette méthode ? Comment, d'où elle vient ? C'est la première fois que j'en entends parler. Donc,
ouais, oui. Elle existe depuis une bonne quarantaine d'années. Elle a été créée par des Américains qui s'appellent Harville et Hélène Hendricks. Et elle est venue en Europe il y a une bonne, je dirais, 25-30 ans. Actuellement, enfin en tout cas moi pour être facilitatrice, j'ai dû me former à Genève. Il n'y a pas encore de formation ici en France, c'est pas encore très développé.
C'est un métier qui est plus développé en Suisse qu'ici ?
Oui, en Suisse, en Allemagne, en Autriche aussi, plus. Voilà.
Ouais, vous êtes une pionnière en quelque sorte.
Voilà.
une précurseuse, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais voilà. Ouais. Merci à vous Mario Malocena-Drosson.
Avec grand plaisir.
Voilà, on va bien sûr mettre toutes les infos pour ceux qui voudraient vous contacter sur notre page sur francebleu.fr.